La vie de Melchior Delfis change subitement à l'automne 1814. Simple administrateur de l'arrondissement de Delémont, il est envoyé au congrès de Vienne par Conrad d'Andlau, gouverneur de la principauté, pour obtenir des puissances que l'ancienne principauté forme un canton indépendant. L'autre représentant d'Andlau est Conrad de Billeux. De Vienne, Delfis écrit à Charles-Ferdinand Morel, pasteur de Corgémont et notable d'Erguel. La lettre n'est pas datée, elle a été écrite après le 16 janvier et au plus tard avant le 5 mars 1815. Mais ce qu'écrit Delfis n'est pas toujours parole d'évangile. Comme vous allez l'entendre, je suis souvent obligée de rectifier son propos.
Monsieur, si je ne vous ai pas encore écrit, c'est que réellement je n'en ai pas trouvé le loisir. D'ailleurs, monsieur de Bilieux et moi écrivons régulièrement par chaque courrier à son Excellence le gouverneur général qui est mis au courant de tout ce qui se passe à notre égard. De tous les peuples dont le sort doit être décidé au congrès, nous sommes le moins considérable, et il n'en est pas un cependant qui ait été exposé à plus de choses et qui présente des négociations aussi compliquées avec des variations aussi fréquentes.
Ah oui, monsieur Delfis ? Et vous pensez que le sort de l'évêché de Bâle mobilise plus d'énergie diplomatique que le partage de la Pologne ou l'avenir de la Saxe ? Allons, vous plaisantez.
D'abord, plusieurs princes, tels que le vice-roi d'Italie, le prince de Taxis, etc., se sont mis sur les rangs pour obtenir notre pays. Ces prétentions ont été écartées. Ensuite, on a proposé de nous morceler, de céder à la France la partie de l'évêché qui s'étend depuis Saint-Ursanne jusqu'aux limites du Haut-Rhin et du Doubs, et cela en échange de Versoix, de partager ensuite le restant entre Neuchâtel, Berne, Soleure et Bâle. Il n'a pas coûté peu de peine pour faire rejeter ce projet qui entraînait la ruine entière de toutes les parties de l'évêché. Enfin, il a été reconnu et décidé que notre pays devait, dans son intégralité, être suisse et rester dans son entier, à l'exception de 3 villages que l'on destinait à Bâle.
Le scénario d'une partition dans l'ancienne principauté entre la France et les cantons suisses a effectivement été d'actualité à Vienne. Mais le projet d'échange de la Joie et du Clos du Doubs contre une partie du Pays de Gex n'a pas été abandonné grâce à votre intervention, monsieur Delfis. Quant aux prétentions du vice-roi d'Italie ou du prince von Taxis, personne ne les a jamais prises au sérieux, sauf vous, apparemment. En plus, ce ne sont pas 3, mais 9 villages qui reviendront au canton de Bâle.
Tel était l'état des choses lors de l'arrivée de M. de Billeux. Depuis, nous n'avions pas perdu l'espoir de notre cantonisation. Je pense que son Excellence vous aura donné connaissance de la demande que nous avons fait insérer au protocole du Comité des affaires de la Suisse et que nous avons verbalement soutenue par des motifs puissants fondés dans la justice et les règles d'une saine politique. On nous a écoutés avec attention, mais nous n'avons reçu d'autres réponses sinon que l'évêché de Bâle, dans son intégralité, était suisse et que l'on prendrait nos raisons en considération. En particulier, tous les ministres composant le comité nous ont dit que notre réunion à l'état de Berne était projetée, mais qu'on nous assurerait une capitulation honorable et avantageuse.
Vous et M. de Billeux avez en effet été entendus par le comité pour les affaires de la Suisse le 16 janvier 1815. Mais quelques minutes avant, le comité avait déjà décidé, sans écouter votre avis, que l'ancienne principauté deviendrait suisse et serait partagée entre Berne et Bâle.
Si on nous eût dit que nous ne pouvions pas former un canton, mais qu'il nous était libre d'émettre notre vœu d'être réunis à tel ou tel canton, nous n'eussions pas hésité de demander d'être neuchâtelois plutôt que bernois, car personne n'est plus que nous convaincu que Neuchâtel est, de toute la Suisse, le pays à la fois le plus libre et le plus heureux. Mais on ne nous laisse pas ce choix.
Effectivement, vous n'aviez pas le choix. Du reste, le scénario neuchâtelois n'aurait eu aucune chance. Ni les Alliés, ni les Suisses n'auraient accepté que le roi de Prusse, prince de Neuchâtel, augmente ainsi son influence sur la Confédération.
Nous avons, dans cette circonstance, fait ce que nous avons cru devoir faire. Nous avons fait 2 nouvelles démarches, donner 2 nouvelles notes au ministre des 8 cours composant le congrès pour obtenir notre cantonisation et subsidiairement que notre pacte de réunion se fit ici sous les auspices du congrès. Nous demandons la même chose aux pieds des monarques eux-mêmes. Réussirons-nous ou ne réussirons-nous pas ? C'est un problème. Le comité suisse s'assemble encore. Il travaille à une rectification de son rapport. Il est possible que nous y entrions pour beaucoup. Je sais que notre réunion à Berne n'entre pas dans les vues d'une grande cour qui soutient notre vœu. Ce n'est que depuis 2 à 3 jours seulement que cette cour se prononce, et ceci pourrait amener à des changements avantageux à notre cause.
La cour dont vous parlez est la Russie. Mais vous vous faites des illusions. Son plénipotentiaire est acquis à la cession au canton de Berne. En revanche, il exigera que Berne donne les garanties prévues le 16 janvier afin que les nouveaux sujets jouissent des mêmes droits que les anciens bernois. Et surtout, la Russie entend que Berne se dote d'une constitution qui garantisse les droits des nouveaux venus.
Dans tous les cas, même réunis à Berne, on nous promet les conditions les plus essentielles à notre bonheur futur. Soyez, monsieur, persuadé que nous ne négligerons rien pour remplir notre honorable mission. En particulier, je ferai tous mes efforts pour justifier votre confiance et celle de mes chers compatriotes, mes commettants erguelistes, dont j'ambitionnerai toujours l'estime. Aussitôt que je pourrai, j'aurai l'honneur de vous écrire et de vous renouveler l'expression des sentiments de mon attachement profond et sincère. Signé Delphis.